Chapitre 13. Depuis 10 minutes qu'il était dans le petit salon d'attente, attenant au cabinet du conservateur des forêts, Henri d'Agincourt était obsédé par les mêmes réflexions. Pourquoi, sachant ce qui lui était réservé, était-il venu? À quoi bon aigrir son chagrin par des remontrances ou des menaces? Peu, la force de l'habitude, il avait voulu, pour cette fois encore, obéir par pure condescendance. Mais après, ce serait fini, fini. Il en avait assez d'être tiraillé sans cesse entre des palinodies, des préjugés, des conventions hypocrites. Que diable, il était d'âge à se conduire seul. Désormais, il tenait à vivre tranquille, à sa guise. La porte s'ouvrit, interrompant son soliloque. La bonne figure du conservateur, encadrée par sa belle barbe grise, apparut, calme, paternelle. Entrez, monsieur d'Agincourt, je vous demande pardon de vous avoir fait attendre. Et tout de suite, allant au fait, voyons, je ne vais pas avec vous m'embarquer dans toutes sortes de précautions oratoires. Vous savez pourquoi je vous ai prié de venir me voir, n'est-ce pas?
Oui, monsieur, je crois le savoir.
Asseyez-vous, mon ami, je ne suis pas un ogre, je vous parlerai sans détour, mais comme votre père le ferait. Certes, je comprends, j'excuse les entraînements du cœur. J'admets même les liaisons, je suis large, vous voyez, j'admets les liaisons du genre de la vôtre. Et je m'empresse de le reconnaître, d'ailleurs, que votre manière d'agir dans cette malheureuse affaire fait honneur à votre délicatesse, à votre loyauté.
Merci, monsieur.
Mais cependant, veuillez un peu vous mettre à ma place. Je suis ici pour veiller, en même temps qu'à la marche du service, à la tenue irréprochable des agents qui relèvent de mon autorité. Or, depuis quelque temps, vous vous êtes affranchi de certaines conventions sociales auxquelles tous, je n'en discute pas le bien ou le mal fondé, nous devons nous conformer. Vous avez suscité autour de vous un scandale, oh, pas bien gros, un de ces scandales qu'on pardonne facilement à votre âge, mais enfin, un scandale que je ne puis laisser passer sans vous prier d'y mettre un terme.
Comment faire, monsieur, si les conventions sociales dont vous parlez ne sont pas en conformité avec les lois de l'honneur que tout galant homme se doit d'abord d'observer?
De plus, mon cher enfant, continua le conservateur sans relever l'objection, je crains que votre cœur ne vous illusionne autant sur vos réelles responsabilités que sur vos véritables intérêts. Oui, soyons francs, il me semble que vous exagérez la rigueur de vos engagements.
Ce n'est pas mon opinion.
Enfin, ne discutons pas. Quoi qu'il en soit, en persistant dans la voie où vous êtes entré, vous risquez de briser votre carrière.
C'est un autre point de vue, monsieur, mais peu m'importe.
J'en suis peiné pour vous, mon cher ami. Jusqu'ici, vous n'avez donné à vos chefs que des sujets de satisfaction. Vous avez été admis chez nous dans des conditions particulièrement brillantes. Votre nom est entouré de la plus haute estime, car vous avez de qui tenir. En un mot, tout annonce pour vous un avenir exceptionnel. Eh bien, je le répète, j'ai peur que vous ne compromettiez ces riantes perspectives en vous entêtant dans cette aventure. Cette liaison, c'est l'enlisement, vous êtes perdu.
Mais il n'y a là, monsieur, qu'une aventure absolument banale, puisque j'épouse ma maîtresse.
Oh, voyons, dans les forêts, on ne se marie pas ainsi. Vous surtout, monsieur d'Agincourt.
D'un geste impatient, le jeune homme affirma de nouveau son intention bien arrêtée.
Bon, j'admets que vous épousiez cette jeune fille, poursuivit le conservateur. Croyez-vous que le scandale soulevé s'évanouira pour cela sans laisser de traces?
D'abord, il n'est pas fait ce mariage, et je doute que vous ameniez facilement madame votre mère à y consentir. Ce sera donc un nouveau scandale à greffer sur le premier, la série des actes respectueux, le spectacle lamentable d'une brouilleuse famille. Ainsi, mon cher enfant, comme il serait préférable et plus facile d'éviter tout cela. Suivez mes conseils, allez, vous vous en trouverez bien.
Henri eut un geste de profond abattement.
Je ne puis pas, soupira-t-il, je ne puis pas faire mieux.
Sans doute, mon ami, vous êtes en règle avec votre cœur. Et je sais que lorsque le cœur parle avec passion, presque toujours, il est plus fort que tout. J'aurais tort d'affirmer, d'ailleurs, qu'il soit forcément mauvais conseiller.
Néanmoins, dans la circonstance, avouez franchement vous-même que ce pauvre cœur meurtri n'est pas tout à fait d'accord avec la raison. Là, calmez-vous. Je vois déjà vos grands gestes de protestation ou de découragement. Il n'y a pas lieu de désespérer pour cela, mon cher. Nous sommes tous faibles. Seuls, nous ne pouvons rien. Si on nous aide, nous pouvons tout. Tenez, voulez-vous que je vous dise ce qu'il vous faudrait en ce moment ? Ce serait un ami courageux qui vous soutiendrait dans le combat à livrer contre vous-même, qui vous écarterait tout doucement du danger, qui vous pousserait vers un autre but. Point de rupture immédiate, je n'y songe pas, cela vous briserait. Mais quelques distractions, d'amicales causeries ou s'ébaucheraient d'autres projets, des absences, courtes d'abord, insensiblement plus prolongées, je suis sûr que votre cœur irait mieux au bout de peu de temps. Vous voyez, je suis un médecin naïf, je vous dévoile les secrets de la médication applicable à votre cas, au risque d'en compromettre l'efficacité. Mais mon amitié m'aveugle, mon zèle m'emporte. Je serais si heureux de vous faire du bien. Ah, si vous vouliez que je sois pour vous cet ami dévoué, courageux, dont je parlais. Henri leva vers son chef un regard suppliant. Après être demeuré d'abord anéanti, frémissant devant cette prière si touchante, son cœur se révoltait dans un suprême effort pour demander grâce. « Je veux bien tout ce que vous voudrez, monsieur, » balbutia le jeune homme, « mais plus tard, je vous en conjure. Plus tard, je viendrai moi-même vous dire, faites de moi ce qu'il vous plaira. Au besoin, je vous remettrai ma démission si vous jugez que le scandale de ma conduite a trop gravement compromis la dignité du corps des forêts. Mais pour le moment, je vous en prie, laissez-moi conserver toute mon énergie pour le grand devoir qui va m'incomber. » Que vous approuviez ou non mes actes, il y a un fait devant lequel tout doit s'incliner. Ma femme, ou du moins celle que je considère comme telle, est sur le point d'être mère. Vous avez une femme et des enfants, monsieur. Vous vous rappelez quels tourments vous ont accablés à la naissance de chacun de ces êtres si chers pour lesquels il n'est rien au monde que vous ne soyez prêt à sacrifier avec plaisir. Eh bien, quelles que soient les conditions, régulières ou non, dans lesquelles se présente pour moi cette première paternité, permettez-moi d'être tout entier à la grande joie ou à la grande douleur qui m'attend. » Il y eut un silence. Le conservateur essayait de dominer le trouble qui l'envahissait, puis, vaincu, il se leva, les mains tendues vers celles du garde général, et d'une voix où tremblaient des larmes. « Mon cher enfant, murmura-t-il, je n'ai plus de conseils à vous donner, ni de remontrances à faire. Vous êtes un honnête homme et un homme de cœur. Plus tard, oui, plus tard, nous verrons à tout arranger si c'est possible. Pour l'instant, advienne que pourra. Je vous offrais mon amitié, vous l'avez avec mon admiration. Au revoir. » Et pressés tous les deux d'échapper à un tête-à-tête où leur émotion n'aurait peut-être pas pu se contenir, ils se séparèrent sans rien ajouter après une cordiale étreinte. Cependant, les semaines passaient, et le temps, loin d'atténuer la tension des rapports entre Madame d'Agincourt et son fils, ne faisait que compliquer la situation. Dès le début, et du jour où il avait été admis qu'une rupture entre Henri et Angèle était impossible, il y avait deux manières d'arriver à une solution. Ou que Madame d'Agincourt ratifiât la décision prise par son fils, ou que celui-ci, brusquant le dénouement, adressa à la vieille dame les sommations dites respectueuses. Mais Henri, répugnant à employer la violence, avait reculé, reculé sans cesse devant les mesures extrêmes, se réservant d'y recourir lorsqu'il ne pourrait plus faire autrement, et convaincu d'ailleurs que sa mère, enfin touchée, leur en épargnerait l'ennui. Il avait, de la sorte, retardé de jour en jour, de mois en mois, si bien que ce suprême expédient, à cause de la longueur des délais, ne pouvait donner d'effet utile avant la naissance de l'enfant. Il faudrait donc se résigner à voir celui-ci naître illégitime, à moins que Madame d'Agincourt n'accordât auparavant son consentement. Le garde général, pénétré de l'excellence de sa cause, crut qu'une dernière tentative dans ce sens près de sa mère serait couronnée de succès. Et il la fit. Mal lui en prit. Il ne reçut qu'un refus catégorique dans les termes les plus blessants. Puis la vieille dame, après avoir lancé ses malédictions, déclara que, pour n'être plus en butte à ses tiraillements qui la rendaient malade, elle allait partir et passerait quelque temps chez une de ses cousines, à Saint-Nicolas-du-Port, près Nancy. Et le lendemain, elle prit le train pour Paris. Dès qu'il se retrouva en face d'Angèle, le garde général n'eut pas la prudence de lui cacher le départ de sa mère et la cause de ce départ. Ce fut le coup de grâce pour la malheureuse qui, déjà épuisée par sa grossesse, impressionnable à l'excès, vivait dans un état de nervosité suraigu. En voyant à quel abîme de tribulation elle entraînait son très généreux ami, elle éprouva une si violente commotion qu'elle s'évanouit. Lorsqu'elle eut repris ses sens, une fièvre intense se déclara qui ne fit que s'accroître d'heure en heure. Henri la coucha sans qu'elle opposât la moindre résistance. Les forces lui manquaient. Puis il écrivit à la hâte quelques lignes pour le médecin et descendit chercher un commissionnaire afin de faire porter immédiatement la lettre à destination. Le médecin qu'appelait le garde général était un de ses anciens camarades de collège, installé depuis peu à Bordeaux. Praticien de la jeune école, tout frais débarqué de la faculté de Paris après 10 ans d'études sérieuses, il passait pour bien connaître son affaire. Comme il était prévenu depuis plusieurs semaines qu'on aurait incessamment besoin de son ministère, il accourut aussitôt qu'il eut reçu le petit mot de son ami. Il examina soigneusement la jeune femme, mais sur des symptômes pas encore suffisamment précis, il ne put formuler un diagnostic complet définitif. Il se contenta de quelques assertions vagues, de quelques phrases consolantes, concluant à l'éternelle banalité que ce ne serait rien. Toutefois, loin des oreilles de la malade, pendant qu'Henri le reconduisait jusqu'au bas de l'escalier, il fut plus catégorique. « Tu sais, pas de blague, ça peut être grave. Dans la situation actuelle, tout peut devenir grave. Vous n'attendiez que pour octobre ?»« Oui, ça faisait encore près de 3 semaines. » »« Parfaitement, mais les secousses violentes peuvent provoquer un accouchement prématuré. » Et c'est aussi désagréable pour la mère que pour l'enfant. Allons, du courage, ce ne sera peut-être rien, mais il faut veiller. À demain. Je reviendrai demain matin. Ce sera fini sans doute. Il revint, le jeune docteur, mais non pas le lendemain, la nuit même, rappelé par Henri affolé. Et cette fois, il fallut laisser de côté les vaines formules, les vagues diagnostics pour montrer du tact, de la science et de l'habileté. Le jeune docteur fit honneur à sa réputation. À 8 heures du matin, Henri d'Agincourt avait une petite fille qu'on installa tant bien que mal dans une barcelonnette improvisée. Quant à la mère, elle allait passablement. Ce dénouement était tellement inattendu, les événements s'étaient précipités avec tant de rapidité que le garde général, éreinté, hébété par une nuit passée debout, dans de mortelles angoisses, se demandait si tout cela était bien réel, s'il veillait ou s'il rêvait. Angèle avait voulu qu'on mît le berceau près de son lit, afin que de la main, sans bouger, elle pût toucher son enfant. Mais bientôt, l'épuisement, la lassitude l'emportèrent, elle s'endormit. Le médecin revint quelques instants après et réveilla la jeune femme, ne voulant pas qu'elle se laissât aller à ce mouvement de nonchalance. Puis il consulta le pouls, parut satisfait et sortit en promettant de repasser dans la soirée. Quand ils furent seuls, Angèle fit signe à Henri d'approcher et, tout bas, murmura « Tu n'as pas pensé aux formalités ?» C'était la première fois qu'elle employait le « tu ». Il hocha la tête. « Ma foi, non, il y a le temps. »« Ah » fit-elle. Et après un silence, elle continua « Cependant, il faudrait savoir s'entendre pour le nom. Mais, dit Henri, je ne puis faire autrement que de déclarer l'enfant sous ton nom et de la reconnaître ensuite. La jeune mère rougit et ferma les yeux. Non, reprit-elle après une minute, tu ne m'as pas comprise. J'ai voulu dire, quel prénom donnerons-nous à la chère petite ? Dame, je ne sais trop, nous n'avons pas réfléchi à cela, nous voilà prises au dépourvu. Elle l'interrompit et l'attirant bien près d'elle. « Si tu voulais, soupira-t-elle, nous l'appellerions Lucienne. » Henri eut un haut de corps et eut besoin de quelques secondes pour se remettre de sa surprise. Puis, d'un signe de tête, il fit comprendre à Angèle que son désir serait exaucé. Quelques minutes plus tard, la mère Mazerat, qu'on s'était décidé à aller chercher en voiture, arriva. Le garde général n'était pas sans inquiétude sur cette entrevue. Il craignait que les anciennes colères ne se réveillassent et qu'une scène n'éclatât. Il en fut pour la peur. La vieille femme fit bonne mine à tout le monde, surtout au bébé. Et Henri, rassuré, convaincu que la présence seule de la fillette suffirait à maintenir la bonne harmonie entre la fille et la mère, profita de l'occasion pour sortir et s'occuper des formalités dont il voulait seul assumer la charge. Lorsqu'il eut satisfait aux prescriptions de la loi, il se dirigea vers le télégraphe. L'idée lui était venue tout d'un coup de prévenir sa mère par dépêche. Réflexion faite, il s'arrêta à un autre moyen. Il rentra chez lui, rue du Palais Gallien, et écrivit à Madame d'Angincourt une longue lettre. Il n'essaya pas de légitimer sa conduite en plaidant les circonstances atténuantes. Non, s'avouant vaincu par les événements, s'humiliant, il demandait pardon pour Angèle et lui, et par-dessus tout, pitié pour leur enfant. On ne pouvait pas faire à l'innocente créature un crime de sa naissance. Devant elle, les discordes, les préventions devaient disparaître. La pauvre petite avait droit avant tout à l'indulgence et à l'affection de tous. Le cœur d'une mère, pensait le jeune homme, ne résiste pas à de telles prières, à de tels arguments. Soulagé par cet aveu, heureux d'avoir eu le courage de faire cette démarche dont il espérait les meilleurs résultats, le garde général reprit gaiement le chemin des Chartrons. Hélas, quelle triste surprise l'attendait dans sa garçonnière. Le médecin était là, examinant la jeune accouchée, et il semblait désorienté par les symptômes graves, inattendus, qui déroutaient ses prévisions. Devant elle, néanmoins, il ne laissa pas voir tout son désappointement. Il chercha même, vers la fin de sa visite, à détruire l'effet qu'avait pu produire sur la jeune femme un premier mouvement d'inquiétude dont il n'avait pas été le maître. Il affecta de l'insouciance, parla de prompt rétablissement, s'extasia encore sur la beauté et la force de la fillette, une enfance superbe, éloge qui donne tant de joie et de courage aux jeunes mères. Mais en se retirant, il fit signe à Henri de le suivre. Alors, une fois dehors, il s'arrêta, regarda son ami en face et, après une courte hésitation, « À toi, dit-il, je dois la vérité, n'est-ce pas ?»« L'état d'Angèle serait-il alarmant ?» demanda vivement le garde général. « Oui, très alarmant. » Si alarmant que je ne réponde rien. Jusqu'à maintenant, tout marchait à peu près, mais voici que cette maudite fièvre, anodine encore ce matin, a pris tout à coup une intensité incompréhensible, effrayante. Si je ne parviens pas à l'enrayer d'ici demain, ce sera grave, très grave. On a vu des cas de ce genre devenir des cas d'infection purulente dont les effets sont foudroyants. Bien entendu, il ne faut pas, dès maintenant, mettre les choses au pire, mais il est bon de tout prévoir. J'ai cru préférable de te faire connaître la situation exacte. Tu ne m'en veux pas ?
Pas du tout, dit Henri en serrant d'un air hébété la main de son ami.
Veille bien à l'exécution scrupuleuse de l'ordonnance, ajouta ce dernier en s'éloignant. Je reviendrai demain matin, peut-être cette nuit. Mais le garde général déjà n'entendait plus. Il remontait l'escalier, la tête basse, le regard éteint, désorienté. « Ah, mon Dieu, si Angèle allait lui être enlevée maintenant !»« Non, non, ce n'était pas possible. Dieu ne pouvait, ne devait pas faire cela. Priver de sa maman, cette pauvre petite créature, mais c'eût été une iniquité, une monstruosité. Dieu est juste, Angèle vivrait. » Alors, il rentra dans la chambre, et fort de sa conviction, il s'assit près de la malade, très calme, mais avec un certain air de fierté énergique, comme pour bien affirmer sa résolution inébranlable de disputer à la mort sa proie, jusqu'à la victoire.